La présidentielle est sur Europe 1. Xavier Bertrand est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h. Sonia Mabrouk est toujours avec nous. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Je vous laisse reprendre la conversation avec Xavier Bertrand.
Alors Xavier Bertrand, vous dites la France doit demeurer un grand pays. C'est un grand pays qui a par ailleurs de grands problèmes aujourd'hui. Vous évoquez la nécessaire restauration de l'autorité, la reprise en main des flux migratoires, le contrôle des flux migratoires. Ces problèmes n'ont pas commencé il y a 5 ans, ils n'ont pas commencé il y a 10 ans. Comment expliquer le fait que le pays se soit enfoncé peu à peu dans un sentiment d'impuissance? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une forme de capitulation idéologique trop souvent devant une certaine gauche qui culpabilisait ceux qui nommaient les problèmes?
Mais on en revient, vous avez suivi l'entretien avec Sonia
Mabrouk.
C'est le problème de déconnexion d'un certain nombre de dirigeants. Je pense que c'est avec les deux chocs pétroliers qu'il aurait fallu changer, justement, de politique migratoire. Maintenant, je suis absolument convaincu qu'il y a une différence à la façon dont est gérée cette politique migratoire depuis 10 ans et celle qui a été, pendant Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, les deux quinquennat, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et président de la République, sur ces questions. Il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas d'angélisme chez nous. Et c'est la droite républicaine qui peut apporter ces solutions, avec à la fois humanité et fermeté. En faisant la différence entre l'immigration légale, qu'il faut vraiment contrôler et diminuer, et l'immigration illégale, qu'il faut réellement combattre.
Une question d'efficacité peut-être, puisque vous en parlez, sur les OQTF, les fameuses OQTF. Vous allez donc revenir, si on a bien compris, Monsieur Bertrand, sur les accords bilatéraux de 68 avec l'Algérie. S'ils ne reprennent pas ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol, mais comment faites-vous, alors que l'Algérie, vous le savez très bien, est l'un de nos partenaires essentiels dans la lutte contre le terrorisme? Se fâche avec un tel partenaire?
Et est-ce qu'ils peuvent se fâcher avec nous?
La question se pose dans les deux sens.
Bien sûr que non. Je ne souhaite pas que l'on rompe toutes les discussions diplomatiques avec tous les pays, mais je veux juste leur dire, si vous n'acceptez pas ces règles-là, nous allons changer d'attitude avec vous. Je le dis, vous savez, de façon très calme, très déterminée. Je ne suis pas un énervé, mais je sais pertinemment qu'au moment où nous sommes, si vous ne faites pas respecter les intérêts de votre pays, vous n'êtes pas digne d'être président de la République. Sur les OQTF, vous avez raison. 12% des obligations de quitter le territoire en France sont exécutées. Mais c'est n'importe quoi. Et la moyenne européenne n'a rien à voir avec les chiffres que nous connaissons. Donc il faut que les pays reprennent leurs ressortissants. Soit leurs ressortissants clandestins chez nous, qui n'ont rien à y faire, soit leurs ressortissants condamnés, qui après avoir purgé leur peine, doivent retourner dans leur pays. Donc il faut qu'ils nous délivrent des laissez-passer consulaires. S'ils refusent de délivrer des laissez-passer consulaires, dans ces cas-là, plus personne de ce pays ne rentrera en France. J'y suis prêt. Du chef de l'État jusqu'au touriste, de l'étudiant jusqu'au dirigeant. Et vous savez ce qui va se passer? Mais ils vont changer d'attitude. Là, quand vous avez le ministre, je ne sais plus, c'est le ministre de l'Intérieur qui a fait une tournée dans ces pays à la demande du président de la République. Mais quels sont les résultats derrière? Et quand vous avez, parce qu'il y a les élections présidentielles qui approchent, M. Macron qui dit « oui, je vais réduire ». Non, il ne faut pas réduire. Il faut stopper. Et vous allez voir que les autres, dans ces conditions-là, vont changer d'attitude. L'aide au développement. Il faut l'aide au développement. Je pense même qu'il faut la booster pour
nous
permettre le développement.
Le sujet est plutôt
dans
consensuel.
Dans ces cas-là, les pays qui ne veulent pas jouer le jeu sur les laissez-passer consulaires, je suis prêt à ce que l'on remette en cause l'aide au développement, et ça ne se produira pas parce qu'ils vont changer d'attitude.
Mais remettez-vous en question les accords du Touquet, signés en 2003 par un gouvernement de droite, et qui font structurellement de la France le sous-traitant de la question migratoire vis-à-vis des Britanniques, qui aujourd'hui nous font ce chantage de menaçant de ne pas nous payer pour un travail qu'ils estiment mal fait.
Je veux remettre en cause les accords du Touquet, je veux les dénoncer, et pour que l'application de cette dénonciation se fasse, il faudra 2 années. 2 années pendant lesquelles les Britanniques vont être obligés de revenir à la table des discussions. Je demande cela depuis des années. Mais depuis maintenant 5 ans, le gouvernement n'a pas pris la mesure, toujours le problème que j'évoquais. M. Macron ne ressent pas les questions des Français. Il ne les ressent pas. Quand il vient dans le Pas-de-Calais, il va dans sa maison au Touquet. Le Touquet, c'est pas Calais. Il n'arrive pas à ressentir ce que vivent à la fois les riverains de ces campements illégaux, des campements de la jungle que nous avons réussi à obtenir le démantèlement avec fermeté et avec humanité à l'époque avec Natacha Bouchard. Il ne se rend pas compte non plus de ce que vivent ces migrants dans des conditions épouvantables. Et quand vous voyez les Britanniques, non mais la façon dont ils se comportent avec nous, ça va bien quand même. De toute façon, vous connaissez le point de vue des Britanniques. Tout ce qui est à eux est à eux, et tout ce qui est à nous, Allez, ça se négocie.
Certains vous disent que vous faites du populisme light.
Non, je cherche à me battre pour mes concitoyens et pour les intérêts de mon pays. Et de toute façon, vous n'avez pas compris que, enfin, si on n'a pas compris que dans ces discussions aujourd'hui, eh bien, quand vous cherchez à traverser dans les clous, eh bien, c'est là que les autres vous marchent sur les pieds. Eh bien, moi, je le dis très clairement, je suis avant tout décidé, comme je le fais dans ma région aujourd'hui, à défendre et à me battre pour les intérêts de mon pays. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on se batte pour eux. Et on se bat toujours pour des causes essentielles. Mais là, vivre en paix et en sécurité, c'est ce que veulent les habitants du Calaisie, du littoral. Et encore une fois, dans ce que disait M. Pavlenko à l'instant, tous ceux qui sont à Calais, ils veulent pas rester à Calais. Ils veulent aller en Angleterre. Et pourquoi ils sont si nombreux à vouloir aller en Angleterre? Parce que les Britanniques sont des hypocrites. Ils prennent les migrants qui sont payés avec un lance-pierre dans des conditions épouvantables en Grande-Bretagne. Mais quand ils arrivent en Grande-Bretagne, vous croyez quand même que les Britanniques les gardent ou les renvoient? Mais ils les gardent, ça leur fait de la main-d'œuvre bon marché.
Question de Mathieu Vauquier.
Là aussi,
il
faut arrêter
Monsieur
cette hypocrisie.
Xavier Bertrand, permettez-moi de revenir sur le constat parce que la chose me semble importante. Je fais référence au débat d'hier soir où il y avait une véritable compétence technique et gouvernementale, peut-être une absence de perspective historique et d'autres débats. Il y a besoin d'une demande de sens dans la société aujourd'hui, une volonté de replacer les choses dans un grand contexte. Vous voulez maîtriser les flux migratoires. Est-ce que derrière ça, vous reconnaissez que l'immigration massive qui a été imposée à la France depuis une quarantaine d'années, elle a été véritablement imposée? Est-ce qu'elle a été imposée aux Français malgré eux, alors qu'on leur disait trop souvent, ou peut-être trop souvent, c'est une chance pour la France, la diversité est une richesse, et ainsi de suite? Est-ce que vous reconnaissez que cette espèce de révolution démographique a été imposée aux Français malgré eux?
Je pense que beaucoup ne se sont pas forcément rendus compte de ce que vivaient ceux qui étaient dans des quartiers. Des quartiers qui ont été minés au fur et à mesure par le communautarisme. Tout le monde ne s'est pas forcément rendu compte qu'une partie de la délinquance est aussi alimentée par l'immigration illégale. Vous savez, moi je suis un élu de terrain et pas seulement dans ma région. Ce sont aussi des policiers à Marseille qui m'ont expliqué que ce sont des mineurs étrangers qui sont aussi exploités par des bandes, par ces criminels que sont les passeurs, qui sont les responsables d'une bonne part de la délinquance au cœur de cette ville. Toutes ces réalités-là, moi je les connais.
Ça fait 30 ou 40 ans qu'on entend ça? Je pose la question. Pour la France depuis 40 ans, j'ai toujours entendu ça. Certains le redécouvrent aujourd'hui, mais le malaise français ne s'enracine-t-il pas dans le fait que bien des gens le savaient depuis longtemps?
La déconnexion des élites, ce que je vous dis. Mais encore une fois, il n'y a pas la même perception de la part de la droite républicaine, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une partie de la gauche, de la bien-pensance. Moi, vous savez, j'ai des défauts, hein, mais je ne suis pas naïf. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, tiens, vous connaissez bien, vous, Monsieur Bocoté, c'est que moi, je veux revenir à un système de quotas migratoires comme l'Australie ou le Canada, qui sont des pays qui ne sont pas dirigés par des laxistes, hein, mais ni par des extrémistes. Et je pense que c'est cette voie-là qui est importante. Et vous disiez que vous étiez passionné par la France depuis 40 ans, moi, je me passionne pour la France dans les 40 ans. Je suis candidat pour un mandat unique. Mais ce que je veux, c'est que nous reprenions une bonne trajectoire qui redonne confiance à nos concitoyens.
Mais comment, vous n'avez pas employé le mot de frontière. Est-il tabou pour vous? Parce que la Pologne a dénoncé, pour qu'on soit concret, l'arrivée de centaines de migrants depuis la Biélorussie. La Pologne dénonce, quant à elle, une invasion migratoire. Certains accusent à l'inverse la Pologne d'instrumentaliser ces migrants en représailles aux sanctions européennes. Qui a tort? La Pologne ou l'Union européenne? Où vous vous placez?
Il faut aider la Pologne. Il faut soutenir davantage Frontex dans ses demandes, alors que certains membres de
la Pologne, dites-vous.
Exactement.
Mais de quelle manière concrètement cette aide à la Pologne?
En soutenant financièrement ce qu'ils demandent pour protéger leurs frontières. Il faut soutenir Frontex alors même que certains membres au sein de la Commission remettent en cause ce que demande Frontex aujourd'hui. Je suis Madame Mabrouk pour une triple frontière. La première, c'est la frontière des pays d'émigration. En disant, nous vous aidons pour votre développement, parce qu'encore une fois, si on ne les aide pas pour leur développement, vous pouvez construire des murs de 10 mètres. Dans 10 ans, ces murs feront 15 mètres. Le choc migratoire n'a pas encore eu lieu et nous avons besoin de les aider à investir davantage pour qu'ils puissent garder leur jeunesse et qu'ils gardent également leurs frontières. La deuxième, et d'ailleurs ce que je vous dis là, c'est ce que je demandais en 2015. Je parlais d'une forme d'alliance pour la Méditerranée, pour que l'on voit qu'on arrête d'avoir une Méditerranée.
D'accord, pour les pays de départ.
Deuxième
ensuite,
frontière,
oui.
Les frontières de l'Europe. Et les frontières de l'Europe, aujourd'hui, elles ne sont pas.
Mais où sont-elles?
Elles sont fermées.
Donc, attendez, donc ce matin, Xavier
Pologne,
Bertrand
je vous le dis,
défend Varsovie, qui a donc raison dans la
Macron
défense de ses frontières.
Et Macron devrait aussi aider ces pays européens qui demandent à ce que l'Europe soit avec
Parce
eux pour
vous venez
protéger...
de dénoncer les extrémistes. Je pensais que vous alliez me dire sur la Pologne que c'est une instrumentalisation de la part d'extrémistes.
Non, je viens de vous le dire encore une fois. Il faut savoir comment nous voulons voulons protéger nos frontières. La frontière de la Pologne, les frontières de l'Europe, elles nous concernent également. Et la troisième frontière, ce sont les frontières nationales. Je veux que l'on puisse garder, dans mon prochain quinquennat, exactement la possibilité de protéger nos frontières si nous en avons besoin. Mais ça veut dire aussi avoir des nouveaux moyens technologiques. Les nouveaux moyens technologiques, c'est les drones, toutes ces formes de surveillance qui aujourd'hui n'existent pas.
Mais c'est surtout la politique les décisions qui seront essentielles, puisque la technologie...
Bien sûr, et vous me demandiez tout à l'heure, oui, clairement, un président de la République qui a conscience de ces questions-là, M. Bocquet-Elisée, qui a des solutions efficaces... concrète, oui, je pense que ça peut fondamentalement changer la vie des gens.
Permettez-moi de vous poser une question de vision gaullienne, disons ça ainsi. Aujourd'hui, qui est le plus gaullien ou qui est le plus gaulliste? Le président de la République qui a des sympathies pour l'Europe fédérale d'un côté, ou les pays d'Europe de l'Est qui défendent la souveraineté nationale qui était cher au cœur du général de Gaulle?
Moi, je crois toujours à une Europe des nations. Mais il n'y a pas de choix à faire entre l'un et l'autre. Monsieur Macron, s'il avait... comme vous disiez, cette vision, ce tempérament gaulliste, ne laisserait pas s'affaiblir l'autorité de la France à l'international, comme c'est le cas. Et il aurait aussi à cœur de rassembler les Français. Ce que veut la droite républicaine, ce que porte ma famille politique, ce que je porte, c'est l'idée de rassemblement. J'ai une famille politique et une seule. Les valeurs qui sont les miennes, c'est la grandeur de la France, l'autorité, le travail, oui, l'esprit de rassemblement.
Mais quelle capitale est la plus gaulliste en ce moment, Varsovie ou Paris ?
Ça sera Paris à nouveau après le mois de mai.
Pour l'instant, mais c'est une question cruciale, Xavier Bertrand.
Non, parce que
vous,
attendez, vous me demandez si un pays étranger a une conception gaulliste. Il n'y a qu'un général de Gaulle un seul pays, la France, même si sa vocation est universelle, même si les références sont là. Et je n'ai pas à décerner de brevet de gaullisme à tel ou tel pays.
La question, c'est, considérez-vous qu'aujourd'hui, la France peut revendiquer une pleine souveraineté dans une Union européenne à tendance fédéralisante?
À tendance fédéralisante, jamais avec moi.
Oui.
Je suis attaché à l'Europe, mais je crois aussi à cette Europe des nations. Et je n'ai pas l'intention que l'on défasse la France.
Est-ce que la souveraineté
c'est d'ailleurs
européenne
l'une des raisons
existe
pour laquelle... Souveraineté européenne, il y a une souveraineté nationale, Madame Abou.
Et donc pas souveraineté européenne?
Non. Il peut y avoir pour
donc
l'Europe
c'est une différence
la façon,
avec Emmanuel Macron,
la façon de prolonger les intérêts français. Ça, j'y crois. Mais en tout état de cause, la souveraineté, elle est nationale. L'indépendance, elle est nationale. Que l'Europe nous permette également de pouvoir faire davantage en matière industrielle, davantage en matière écologique. La taxe carbone aux frontières d'Europe, il faut la faire. Mais attention, pas à minima. Et il va falloir aussi que nos amis allemands jouent le jeu à 100% et qu'ils aient pas en tête leurs exportations en Chine et aux États-Unis et qu'au final on ait un système qui sera le strict minimum. Non,
mais vous savez
quelque chose
que disait,
de puissant
Xavier
parce que
Bertrand,
c'est une façon de réussir cette transition
vous
écologique.
Vous savez ce que disait le général de Gaulle qui disait la France, reconnaissons-le, est devenue une petite puissance
il
et pourquoi il nous faut une grande politique. Est-ce que justement la France pour redevenir une grande puissance ne doit-elle pas le faire à l'échelle européenne, ce qui explique en fait, si vous voulez, la logique de souveraineté européenne qui est défendue par Emmanuel Macron. Vous contestez
oui
ce raisonnement?
Oui. Vous avez un sujet très clair. Est-ce que l'on a, une défense européenne? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible, mais attention.
Serpent de mer, vous diront certains.
La force de dissuasion nucléaire, elle restera française avec moi. Elle ne deviendra pas européenne. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, jamais je ne le partagerai ni avec l'Allemagne, ni avec l'Union européenne. Et si on parle également d'une défense européenne, il va falloir aussi que tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, ça veut dire que vous n'avez pas l'Espagne qui est en train de se demander, alors qu'elle est engagée dans l'avion du futur, l'avion de combat du futur européen, bon, on va peut-être acheter des avions américains.
Les 35,
et vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Là où on a besoin d'une clarification, vous me posiez la question tout à l'heure après l'affaire des sous-marins australiens. Il y avait une chose qui était à obtenir du président Biden, plutôt que d'obtenir une bonne poignée de main et une caresse dans le dos, là, lors du dernier sommet. C'était un sommet extraordinaire de l'OTAN. L'OTAN aujourd'hui, c'est quoi ? L'OTAN va où ? Si l'OTAN est une machine à faire la guerre froide pour commencer, la guerre avec la Chine, moi je vous le dis clairement, si demain je dois changer la nature de nos relations avec la Chine, je n'hésiterai pas à le faire. Mais si c'est l'intérêt de la France, pas si c'est l'intérêt des Américains,
la Chine,
pas
Monsieur
parce
Bertrand,
que les Américains l'auront décidé
attendez,
à notre place.
Monsieur Bertrand, la Chine est en train de trembler en vous écoutant.
Pardon ?
La Chine est en train de trembler. Mais vous voyez, c'est le rapport de force qui nous interpelle.
Et alors, vous voulez dire quoi ? Je baisse les bras et tout ? Non, je pense que nous ne sommes pas un pays moyen. Nous ne sommes pas un petit pays parce que nous avons derrière puissance maritime, puissance nucléaire, un siège au Conseil de... Et puis une histoire, bon sens, ce que disait, je ne vais pas invoquer M. Bocquet, mais c'est tout cela. Et puis encore une fois, c'est une question de volonté. Je sais pertinemment qu'on n'aura pas la puissance militaire de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Mais il y a aussi autre chose. C'est que vous pouvez garantir votre indépendance au prix également, parfois, d'alliances. L'OTAN, si ça ne nous emmène pas là où on n'a pas envie d'aller, et puis également, moi j'ai bien l'intention qu'on reparle avec la Russie. Non mais on va rester dans ce climat de guerre froide avec la Russie pendant encore combien de temps ? Vous imaginez si c'était les Russes qui nous avaient fait le coup des sous-marins australiens ? Vous voyez un peu tous les débats qu'on aurait, médiatiques, politiques et autres. On est dans du deux poids, mesure.
On a fait aussi un russe, je vous rappelle, l'affaire des frégates.
L'alliance.
Xavier Bertrand, pardonnez, moi je vous interromps.
Dans la vie, c'est un principe. Je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. On ne met pas tous nos œufs dans le panier américain.
On marque une très courte pause. On revient dans un instant. Xavier Bertrand est l'invité d'Europe Matin jusqu'à 9h.